Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoici aujourd'hui avec Vosges Alternatives au nucléaire et nous avons comme invité Jean-Luc Tonnerieux qui va nous parler d'un incident ou plutôt d'un événement qui a eu lieu il y a bien des années mais duquel on est toujours impacté. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Catherine.
Voilà, donc tu vas nous parler aujourd'hui de Tchernobyl.
Oui.
Comment peut-on décrire cet événement ?
Tchernobyl, c'est un des plus graves accidents nucléaires sur la planète, avec Fukushima, qui a démarré, donc Tchernobyl, cet accident a démarré le 26 avril 1986 à 1h23 du matin.
Ça fera donc 40 ans.
Voilà. C'est un accident qui est répertorié au maximum de ce que l'on a imaginé en termes d'accidentologie sur le nucléaire à l'échelle 7. C'est l'explosion d'un réacteur, le réacteur numéro 4, qui explose et à la suite de quoi se dégage un nuage qui part donc de Tchernobyl et qui va faire plusieurs fois le tour de la planète.
Quelles ont été les conséquences immédiates de cet accident ?
Conséquences immédiates. En fait, sur le nuage, il est détecté d'une façon très étrange. Il est détecté en Suède, qui relève des taux anormaux donc sur son site nucléaire, là-haut, en Suède. Et il se pose des questions. Il se dit, il y a un accident, il y a un problème chez nous. Et en fait, ils comprennent que ce n'est pas sur leur site nucléaire qu'il y a un problème, ça vient de l'extérieur. Et là, de recherche, ils disent il y a eu un accident, il y a un dégagement de radioactivité gigantesque et qui déferle, qui arrive chez nous en Suède. Et ensuite, on retourne en URSS, puisque là, on est encore sur le régime soviétique, donc l'Union République Socialiste Soviétique.
Donc, quelles ont été les réactions en URSS ?
Là, je vais axer quand même tout mon propos dans un certain sens. Donc, je vais parler donc de Nesterenko, je vais parler de l'Institut Belgrade et je parlerai ensuite de l'Association des enfants de Tchernobyl Bélarusse. Et là, donc, je reviens à Nesterenko. Donc, maintenant, Nesterenko, c'est un très haut dignitaire du système nucléaire soviétique. Lui, à l'époque, nous sommes en guerre froide, en 1986, et lui, il s'occupe des centrales nucléaires mobiles. Centrales nucléaires mobiles, en fait, ça permet de donner plein d'énergie pour envoyer des missiles, puisqu'on est toujours dans la guerre des missiles avec les USA. Et donc, quand vous envoyez un missile, hop, vous déplacez votre lance-missile avec sa petite centrale nucléaire mobile, et hop, vous envoyez un pruneau, et les satellites n'ont pas le temps de nous permettre aux Américains de préciser où se trouve cette base de lancement. Donc Nesterenko, il est très haut placé dans le monde nucléaire. Et donc lui, il est informé de cet accident, en fait, le 28 avril au matin, donc 36 heures après le début de l'accident. Et donc il est dans une réunion, on lui explique qu'il y a un très grave accident, enfin, il y a un accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Et lui, il se dit, si c'est très important, il faudrait peut-être évacuer les populations. Dans la journée quasiment du 28, là, il essaye de joindre des hauts responsables donc du système soviétique et il se heurte plusieurs fois à des murs. On lui répond, l'incendie est déjà maîtrisé, tu peux rentrer chez toi ou alors tu vas pas affoler la population et tu ranges tes dosimètres, tu les gardes chez toi. Donc, on n'affole pas les populations et on ne donne pas d'informations. Donc, le 29 au soir, lui, il survole en hélicoptère, donc avec un pilote d'hélicoptère et puis un autre personnage. Donc, ils sont trois dans l'hélicoptère et ils survolent donc ce fameux réacteur qui a explosé. Donc là, on est effectivement à Tchernobyl. Et là, lui, vu l'ampleur de l'accident, il dit, il demande l'évacuation des populations immédiate. dans un rayon de 100 km. On est le 29 avril au soir. Ils demandent tout de suite les évacuations immédiates, tout de suite. Et là, toujours le même mur par rapport à l'establishment soviétique nucléaire. Et les populations, en fait, ne seront évacuées dans un rayon de 30 km qu'à partir de début mai. Voilà. La ville de Pripyat, donc là où tout le personnel de la centrale nucléaire de Tchernobyl habite, malgré tout, a fêté le 1er mai dehors, donc sous les fameuses retombées radioactives immédiates. Voilà.
Alors, je comprends que là, ça a été sous-estimé, clairement, hein, puisque lui avait réclamé 100 km et qu'en fait, on a fait honneur qu'à 30 km, tout en laissant sortir des gens exposés à des radiations sans rien dire. Mais par rapport aux populations, que se passe-t-il vis-à-vis du nuage radioactif?
Donc, le nuage radioactif donc, était déjà arrivé en Suède donc, très rapidement. Le nuage radioactif, en fait, eh bien, il a eu une mauvaise idée à un moment donné de prendre une direction nord-est, un peu globalement direction Moscou. Il hein, faut situer Tchernobyl, donc c'est au sud-ouest de Moscou, à 800 km, grosso modo. De Moscou. Et là, en fait, les Soviétiques ont fait pleuvoir, à l'époque, on sait faire tomber la pluie avec des sels d'argent. Et donc les Soviétiques ont envoyé des bombardiers d'eau pour déverser leur sel d'argent, pour qu'il pleuve. Et quand il pleut, eh bien, en fait, ça fait tomber tout ce qui est dans l'air. Donc ça fait tomber les polluants, mais ça fait tomber bien effectivement la radioactivité. Du coup, sous ces pluies, ben on est à plusieurs, on est très éloigné de la centrale nucléaire là. Je pense à la ville de Novossibkov, qui est en Russie, à l'extrême ouest de la Russie. Novossibkov, eh ben, a malheureusement été arrosée par ces pluies-là. On est à 210 km, et là, on va se trouver donc dans des territoires contaminés. Idem pour des territoires encore plus lointains, donc sur le Bélarus. Voilà. Et les premières cartes de contamination donc de ces territoires, elles sont déjà établies fin mai. Fin mai, on sait où la radioactivité, les radioéléments, entre autres le césium-137 ou le strontium-90, et puis plein d'autres éléments, donc on ne va pas citer toute la liste, mais ce sont les deux principaux. Donc on sait globalement, on a une première carte déjà fin mai. Et là, c'est difficile pour les populations, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, donc là on arrive début des années 90, je fais un saut dans le temps, et Nesterenko, à l'aide donc de Sakharov, donc c'est un scientifique très bien connu, à l'aide de Karpov, c'est un grand joueur d'échecs mondial, hein, on est donc dans ces années 90, donc il décide de créer un institut, l'institut Belrad, Bel comme Belarus, Rad comme radiation, pour aider les populations et surtout donc les enfants qui sont les premières victimes avec les femmes enceintes à souffrir de ces radiations. Donc il crée en octobre 90 l'Institut Belrad.
Moi j'aimerais quand même une petite question subsidiaire. Est-ce que, parce qu'on a fait dernièrement une émission sur Fukushima, est-ce que l'État a diminué le nombre de je ne sais pas comment on appelle ça, pour que ça devienne... Pardon ?
Les normes.
Les normes, pour que ce soit considéré comme moins dangereux. J'aimerais bien, je serais curieuse là.
Je ne peux pas te répondre avec certitude. Par contre, là, donc, je fais un grand saut dans l'histoire. Il est clair qu'en 2016, donc là, on est 30 ans après le début de la catastrophe, en 2016, Poutine a supprimé un certain nombre d'aides aux populations des territoires contaminés, parce qu'il a estimé qu'il n'y en avait plus besoin. Pourquoi ces fameux 30 ans? Alors là, c'est un peu technique. Le césium-137 et le strontium-90 ont une demi-vie donc de 29 et 30 ans. Une demi-vie, ça veut dire qu'au bout de 29 ans ou 30 ans, la radioactivité baisse de moitié, les effets négatifs. Donc, baisse de moitié. Donc, Poutine a décidé qu'on diminuait, on a supprimé les aides et les subventions pour les populations.
Mais c'est important de parler de ça parce que c'est quand même les populations qui ont été impactées. Et qu'est-ce qui se passe pour elles? Est-ce qu'elles sont prises en considération ou pas? Apparemment, elles ne sont pas vraiment prises en considération.
Absolument. Voilà. Absolument. Mais là, on y reviendra tout à l'heure. D'accord. Dans le quatrième ou cinquième...
Le cinquième point. Quelle est la réaction à l'international? Parce que il y a la Russie.
On en revient maintenant.
Oui, voilà.
On va aborder le sujet donc dans ce propos.
Quelle a été la réaction des autres pays?
Alors, à l'international.
Parce que moi, j'ai un seul souvenir. C'est que les nuages ne passent pas la frontière.
Non, ça, c'est concernant la France.
Voilà.
Il faut savoir que quand le nuage survole l'Autriche, le gouvernement autrichien prend des décisions draconiques. Ils interdisent et ils ont jeté tout le lait qui était produit par les vaches. Ils ont pris plein de décisions. Ça a coûté cher immédiatement à l'État autrichien donc de supprimer immédiatement toutes ces récoltes qui avaient lieu. En Allemagne, il y a eu plein de décisions qui ont été prises justement et donc du genre aussi, comme en Hollande d'ailleurs, de rentrer le bétail à l'abri. Pour qu'il ne soit pas impacté par les pluies. Hein. Il faut savoir que c'est toujours les pluies qui font tomber essentiellement la radioactivité. Et bah oui, d'une façon très étrange, en France, non, il ne s'est rien passé. Ça a fait donc l'objet de cette fameuse déclaration que le nuage s'arrêtait à la frontière.
Oui, parce que d'après ce que j'ai entendu à l'époque, et il y a encore 15-20 ans en arrière, il était passé au-dessus de Toulouse. Puis comme il n'y avait effectivement pas de mise en garde aux populations, parce qu'en fait, on ne devait pas sortir sous la pluie normalement, eh bien, il y a eu beaucoup de cancers de la thyroïde à l'époque.
Oui, mais Catherine, il faut que tu saches que tu ne peux pas prouver que c'est lié à Tchernobyl.
Oui, bah très bien. J'aime beaucoup ton sens de l'humour inversé.
C'est quand même le discours officiel.
Oui, l'international, il y a un discours officiel.
Il y a un discours officiel et qui tend donc justement à nier donc l'existence
des nuisances.
Des nuisances. Le lobby nucléaire, donc par l'intermédiaire donc des organisations françaises, a développé 1996 un programme qui s'appelle Ethos. Ethos, donc, qui vient pour aider les populations à rester dans les, à vivre dans, qui confirme qu'on peut vivre en territoire contaminé en prenant quelques précautions. Alors, des précautions développées par Ethos, c'est-à-dire, ben, ne prenez pas cette route-là parce qu'elle est très contaminée, ou alors les cendres de bois, puisque vous brûlez du bois dans vos fourneaux pour faire la soupe, ben, les cendres de bois, il ne faut pas les mettre dans votre jardin parce que c'est une concentration donc, de radionucléides, ou alors ils leur ont expliqué comment cultiver des fruits et des légumes. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. C'est ça le programme Ethos. Et le programme Ethos, donc, mis en place donc, en 1996, je viens de le dire, qui sera utilisé également à Fukushima pour donc inciter, voire obliger les populations à rester dans les territoires contaminés, en leur disant, c'est bon, vous risquez rien. Alors que quand je reviens à l'Institut Belrad, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc qui a été créé pour aider les populations. Donc l'Institut Belrad, eux, ils ont installé, donc on est en Biélorussie ou en Bélarus, ils ont installé 350 sites pour mesurer la radioactivité. Et puis, ils mesuraient donc les taux donc, de charge corporelle de césium-137, c'est une mesure qu'on peut mesurer, qu'on peut faire, effectuer sur les personnes, et donc essentiellement sur les enfants. On mesure la charge corporelle de césium-137 dans l'organisme des personnes. Le césium-137 n'a pas lieu d'exister dans le corps d'une personne. Ce n'est pas un élément naturel, c'est un élément qui existe depuis que l'homme... J'utilise l'expression à dessein, donc qui est très provocatrice, mais bricole dans le nucléaire, parce qu'on bricole, parce que tant qu'on ne sait pas gérer les radiations et les déchets nucléaires, pour moi, c'est du bricolage. Bon, c'est méchant. Mais, et donc, en fait, on sait mesurer ça, et donc on connaît les effets. Après, on connaîtra les effets des rayonnements. Donc, et de la radioactivité sur l'organisme, suite aux travaux donc, d'un médecin qui s'appelle Yuri Bandajewski, qui a expertisé, ou comment on dit, analysé les cadavres des gens, et qui a regardé en disséquant, et en disant, tel élément radioactif va là, entre autres, par exemple, le césium-137 impacte les muscles, entre autres le cœur, le césium, lui, va en lieu et place du calcium dans les os. Voilà, ça, il y a plein de choses comme ça. Tout ça, c'est des choses qui ont été étudiées donc, à l'Institut Belrad, qui est donc un institut, au départ, donc, qui a été aidé par le gouvernement belarus jusque dans les années 90. Et ensuite, 95, pardon. Et là, l'État belarus a refusé donc, de continuer de subventionner. Depuis, c'est donc des autres organisations internationales qui interviennent.
D'accord.
26 avril 1986. Une nuit où la Terre a retenu son souffle. Un réacteur qui explose. Un pays qui ment. Et un monde qui comprend trop tard. Voici Tchernobyl. Une nuit passée dans la centrale, le cœur du monstre se fissure. Le réacteur numéro 4, c'est une bombe sous couverture. La vapeur monte comme un cri, l'acier tremble dans la nuit. Une lumière blanche traverse l'air, et soudain, c'est l'infini. Les employés ne comprennent pas, ils pensent que c'est juste un feu, mais le ciel devient phosphorescent comme si l'aube tombait en deux. La ville de Pripyat dort encore sans savoir qu'elle est condamnée. Le vent transporte une mort invisible que personne ne peut arrêter. Tchernobyl, la nuit où tout a basculé. Tchernobyl, le Tchernobyl, le silence a remplacé les nuées. Tchernobyl, la vérité qu'on voulait cacher. Et des décennies plus tard, la terre continue de brûler. Les liquidateurs arrivent vite, sans protection, sans retour. Des hommes envoyés dans l'abîme pour sauver le monde en un jour. Ils marchent là où personne marche, ils touchent l'enfer de leurs mains. Certains tombent en quelques minutes, disparaissant dans le matin. Les dosimètres explosent tous, les murs brillent dans la nuit noire. Les oiseaux tombent comme des pierres, la forêt change de couleur. On enterre tout sous le béton, mais le poison reste vivant. Et chaque pluie qui tombe encore amène un morceau du néant. Tchernobyl, la nuit où tout a basculé. Et rien n'est vraiment terminé. Le temps passe, mais la poussière reste. On n'oublie pas. Jamais.
Clore cette interview avec la question essentielle, c'est où en est-on aujourd'hui en 2026?
Voilà. Alors, donc, en 2026, donc je reste sur l'Institut Belrade. Donc, en 2001, donc les dirigeants donc de l'Institut Belrade, faisant face à des grandes difficultés financières, ont sollicité des personnes comme Solange Fernex ou Michel Fernex, ou d'autres personnes qui connaissent bien le domaine du nucléaire en 2001, pour aider à trouver le financement. Donc depuis 2001, donc là, à l'époque, ils ont créé l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus, qui a comme objet de financer l'Institut Belrade. Voilà. Et donc aujourd'hui, en 2026, eh bien, on a la certitude que dans les territoires contaminés, petite parenthèse, les territoires contaminés de Tchernobyl, c'est 140 000 km², c'est-à-dire l'équivalent d'un quart du territoire français. Il faut le savoir, parce qu'on ne sait jamais ce que ça représente. Un quart du territoire français sont des territoires contaminés. Là-bas, actuellement, ils vivent 8 millions de personnes, dont forcément énormément d'enfants, et la radioactivité est toujours présente. Les enfants sont toujours impactés, enfin, comme les grandes personnes d'ailleurs, par la radioactivité. L'état de santé des populations est très mauvais, il faut le savoir. Il ne faut pas forcément regarder que les discours où on nous montre que la forêt et puis que les animaux sauvages existent dans la nature, là-bas, autour de Tchernobyl. Non, il faut vérifier l'état de santé. Ben, Il n'y a qu'à regarder l'état de santé des animaux, mais je ne sais pas s'il y a des études faites là-dessus. Mais en tout cas, l'état de santé des populations là-bas en territoire contaminé est dramatique.
Voilà.
Il faut savoir juste quand même que l'Institut Belrad aide les populations aujourd'hui en Biélorussie avec grande difficulté parce qu'ils n'ont pas d'argent, pas assez d'argent, et que l'Institut Belrad est venu aider les populations autour de Fukushima, et que l'Institut Belrad, lors du prochain accident qui va arriver, parce que ça, on est dans le futur, et on sait, le EDF et toutes les instances nationales françaises savent qu'il y aura un accident nucléaire, où et quand, ça on ne sait pas, et ils s'y préparent, hein, puisqu'ils ont organisé leur protection des centrales nucléaires en rapport, mais on sait qu'on pourra bénéficier de l'aide de l'Institut Belrad lors d'un prochain accident.
Donc, on va revenir à aujourd'hui. Que se passe-t-il à Relange?
Mon Dieu, oui, bah j'ai oublié de parler de Relange. Donc à Relange, nous faisons venir donc Yves Lenoir, donc qui est le président de l'association Enfants de Tchernobyl Bélarusse, donc qui subventionne donc l'Institut Belrad, et donc il fera une conférence donc le dimanche matin à partir de 10h30 donc à la Relange Bio, donc c'est à côté de Darnay.
Voilà.
Voilà.
Donc, on vous y attend pour avoir plus d'informations à Relange Bio, qui est une fête bio, qui est très belle d'ailleurs, très bien organisée, qui est
La
très.
grande fête bio du département.
C'est ça, la grande fête bio du département. Et là, il y aura cette conférence à 10h30.
Oui, et un film le samedi après-midi à 17h, donc sur le monde d'après, donc c'est sur le Tchernobyl aussi.
Voilà, ben on vous y attendra, chères auditrices et auditeurs. En attendant, merci beaucoup et à une prochaine fois avec Vosges Alternatives au nucléaire.
À bientôt.